Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur Radio Occitanie. Donc je vous rappelle que Radio Occitanie, vous pouvez l'écouter à Toulouse sur 98.3, mais également dans le Comminges sur 89.4, ainsi qu'en Ariège sur 106.1. Et puis vous avez le site internet de la radio qui est www.radio-occitania.com. Voilà, c'était une petite précision pour voilà, que où que vous soyez, vous pouvez écouter Radio Occitanie. Et puis moi, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, donc je n'ai pas d'invité. La semaine dernière, nous avons reçu donc Greg Lamazère pour son dernier livre, L'Arc des Soviets. Aujourd'hui, je n'ai personne, mais j'ai des choses à vous dire quand même. Et puis je vous rappelle que toutes les émissions de Page à Page sont écoutables et enregistrables maintenant sur le site donc de l'émission, que je vous rappelle tout de suite. C'est Page à Page Toulouse, tout ça attaché sans accent en minuscule, .free.fr. Page à Page Toulouse, .free.fr. Donc vous pouvez écouter les émissions passées et également les enregistrer si vous souhaitez les conserver dans votre ordinateur. Alors, tout d'abord, je commence les petites infos comme à l'accoutumée avec justement, nous reparlons donc de cet homme assez complet qu'est Greg Lamazère, puisqu'il est venu donc nous parler de ses livres, mais comme il est aussi journaliste à TLT, il est aussi musicien. Donc là, c'est pour un apéro-concert que je vous rappelle le lieu et la date. Donc c'est demain soir, vendredi 21 avril, à 19h30. C'est au café Entre Parenthèses, qui se situe au centre commercial de l'OTAN à Labège. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement. C'est 05 62 24 40 73 05 62 24 40 73. Si vous avez envie de venir écouter une des nombreuses facettes de cet homme, voilà, vous pouvez venir l'écouter donc demain soir à 19h30 autour d'un verre. Il joue donc de l'harmonica, je vous le rappelle. Ensuite, je continue avec l'heure du conte à la médiathèque José Cabanis, qui continue également pendant les vacances scolaires. Donc, n'hésitez pas à amener vos enfants. Donc, c'est tous les mercredis à 11h pour les enfants de 2 ans à 4 ans. Et puis, à 15h pour les un peu plus grands à partir de 5 ans. Donc, l'accès est libre, c'est sans inscription. C'est au rez-de-jardin. Et je vous rappelle le numéro pour tout renseignement. 05 62 27 64 80. 05 62 27 64 91. Donc, même pendant les vacances scolaires, c'était justement l'occasion d'aller voir si vous n'y avez pas encore été. Ensuite, les marchands d'histoire, toujours en marche pour autour des bibliothèques de Toulouse. Donc, ils seront le mercredi 26 avril, c'est-à-dire mercredi prochain, à 15h, à la médiathèque José Cabanis, cette fois-ci. Donc, c'est Anne-Marie Lopez qui vous contera une nouvelle histoire où un objet sera à découvrir. Donc, je vous rappelle que ce conte dure à peu près une heure, environ, et c'est réservé plutôt à un public au-delà de 7 ans, à partir de 7 ans. Donc, les petits bouts risqueraient de s'ennuyer. Donc, je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement. L'accès est libre et gratuit, bien entendu, comme d'habitude. 05 62 27 64 91 05 62 27 64 91, c'est le même que pour les comptes du mercredi, mais là il est préférable de réserver pour les marchands d'histoire, donc pour le mercredi 26 avril à 15h, parce que pour prévoir le nombre de places nécessaires pour les enfants. Voilà, ensuite je continue avec une manifestation également. Là, c'est à la bibliothèque de Rangueil, qui se situe 19 rue Claude Forbin, et c'est pour le mercredi 3 mai. Alors, il y a deux séances, une séance à 11h et une séance à 16h, ainsi que le samedi 6 mai à 11h. Alors, je vous dis de quoi il s'agit. des livres à jouer, des livres à toucher, animation autour de 20 livres-jeux en bois, tissu, papier mâché, métal, à toucher, à actionner, à sentir, à écouter, par des enfants donc de à peu près 18 mois à 6 ans. Des textures et des formats étonnants, ces livres aux couleurs inattendues sont de formidables outils pédagogiques. Venez ainsi découvrir le livre Maison, les livres des lumières, des odeurs, des marionnettes. Ces livres aux jeux sont une création de l'association Mots et Couleurs. Des séances donc d'animation sont organisées donc à la bibliothèque, comme je vous le disais, sur inscription. Donc je vais vous donner le numéro de téléphone. Donc c'est à la bibliothèque de Rangueil, 19 rue Claude Forbin, et le numéro de téléphone pour réserver, c'est 05 61 52 31 40, 05 61 52 31 40. Il reste très peu de place pour le mercredi 3 mai pour la séance de 11h et la séance de 16h, et aussi très peu de place pour le samedi 6 mai à 11h. Donc si cela vous intéresse, c'est gratuit, hein, bien entendu. Si cela vous intéresse, je vous invite à vraiment téléphoner très rapidement pour réserver. Ça sera encore pendant les vacances scolaires, ce sera la deuxième semaine des vacances scolaires de Toulouse. Donc la durée de cette petite manifestation, c'est entre une demi-heure et trois quarts d'heure, hein, parce que bon, comme il y a des enfants entre 18 mois et 6 ans, quand déjà ils sont concentrés pendant une demi-heure, c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, je continue avec le café de philosophie. Donc pendant les vacances, il n'y a pas de discussion philosophique, on se repose. Par contre, le 11 mai, donc le deuxième jeudi du mois de mai, avec donc le sujet annoncé, là il y aura donc à 19h30 au café de l'Esquille, 63 rue du Thor. Donc le sujet sera « La loi peut-elle être illégitime ?» Point d'interrogation. Récemment, le premier magistrat de France recommandait de ne pas appliquer la loi. C'est donc du fondement de la légalité dont il est question. Donc la présidence du débat et la reformulation sera assurée par Laurence Dupont, et l'introduction et la synthèse par Jean-Philippe Blanchard. Donc c'est ouvert à tous et les consommations sont au prix habituel. Donc le café de l'Esquille, 63 rue du Thor, et ça sera pour le jeudi 11 mai, je vous le rappellerai d'ici là, mais notez-le quand même si le sujet vous intéresse. Et puis je termine ces petites infos par, si vous avez envie d'écrire des scénarios, des nouvelles, des pièces de théâtre, de la poésie, vous pouvez venir rejoindre Muriel Romana, qui est romancière et scénariste, à son atelier d'écriture qui s'appelle Porte-Plume, qu'elle anime chaque lundi de 16h30 à 18h30 au 14 rue des Arts, au salon Priva. Donc je vais vous donner le numéro de téléphone pour tout renseignement: 05 62 18 95 10, 05 62 18 95 10. Voilà, c'est tous les lundis de 16h30 à 18h30.
Page à page, Claire Ambille.
Alors maintenant, je vais vous présenter deux livres, et puis je vous lirai le début d'un troisième. Hein, on va faire comme ça aujourd'hui. Donc d'abord, un livre très surprenant. Alors pour ceux que ça intéresse, ou même ceux qui ne connaissent pas trop, qui sont pas trop intéressés, mais qui sont curieux, c'est le dictionnaire de magie et sorcellerie dans les Pyrénées. Et oui, alors c'est pas écrit par un sorcier, non, c'est écrit par Olivier de Marliave, et c'est aux éditions Sud-Ouest. C'est un très beau livre de 352 pages avec de nombreuses photos de plantes, de diables, enfin de choses qui font peur aussi. Et puis des photos avec des manuscrits de sortilèges, de sorts, enfin d'un tas de choses. Alors je ne sais pas si ça marche, j'ai pas essayé. Mais c'est vraiment un très très beau livre, et le papier est glacé, donc en plus c'est très agréable à lire, c'est tout lisse, c'est vraiment superbe. Donc ça va de A à Z, hein, comme un dictionnaire. Et donc on y rencontre, ça parle de devins, de sorciers, de guérisseurs, d'exorcismes, de conjurations. Ça cite aussi les monts et les sites ensorcelés, donc de la région des Pyrénées. Et puis les plantes et les animaux magiques, enfin toutes les croyances qui bercent les générations depuis des millénaires. Et donc, ce livre touche à un domaine assez secret, même très secret, donc celui des arts de l'œuvre au noir, c'est-à-dire la magie. Et donc, par sa pratique, des générations entières se sont protégées, préservées des maléfices de la nature, de l'homme et des morts. Alors, l'auteur, comme je vous le disais, n'est pas un sorcier. Non, 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 il est journaliste et écrivain. Il a déjà publié de nombreux ouvrages sur la mythologie et sur la religion populaire. Il est également l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'histoire de l'ours dans les Pyrénées », sujet très, très actuel en ce moment, et ainsi qu'un dictionnaire, un autre dictionnaire, il aime bien les dictionnaires cet homme, le dictionnaire du bassin d'Arcachon. Voilà, donc je vous conseille, si vous avez l'occasion, voilà, si vous êtes intéressé, curieux, si vous avez envie de faire un beau cadeau à quelqu'un qui aime un peu ce domaine un peu secret, un peu noir, un peu magique, hein, aussi, on peut dire. Voilà, c'est le dictionnaire de la magie et de la sorcellerie dans les Pyrénées aux éditions Sud-Ouest. C'est vraiment un superbe livre, très imagé et très intéressant. Ensuite, je vais vous parler donc d'un autre livre que j'ai bien aimé également. C'est L'art de la joie. Alors, c'est édité par les éditions Viviane Ami. C'est l'écrivain Goliarda Sapienza est décédé en 1996, donc elle n'a pas vécu la parution de ce livre en Italie, puisqu'elle est de ce pays. Mais les éditions Viviane Ami ont décidé donc de le rééditer. Donc, L'art de la joie de Goliarda Sapienza. C'est un livre de 640 pages. Et oui, il faut bien ça pour raconter 10 ans. Donc, elle a mis 10 ans à l'écrire, donc il faut bien 640 pages. Donc, c'était une comédienne, écrivain qui est décédée, comme je vous le disais, en 1996 et qui a eu une vie très trépidante, très, très agitée. D'ailleurs, donc, ce roman, c'est un roman d'apprentissage centré sur l'extraordinaire personnage de Modesta, donc c'est l'héroïne du roman. Il foisonne donc d'une multitude d'autres vies, bien sûr, hein, pas seulement celle de Modesta. C'est un roman d'essence et de la sensualité. Il ressuscite les élans politiques donc du XXe siècle, qui ont échelonné tout le XXe siècle. C'est un roman aussi provincial, ancré dans une Sicile à la fois sombre et solaire, puisqu'elle est originaire de ce pays. Et il se tend vers l'horizon des mers et des grandes villes européennes, puisque trois générations s'y succèdent, donc c'est pour ça que c'est un énorme livre avec beaucoup de personnages. Alors Modesta, bon, c'est une enfant qui est née. On peut pas résumer, mais je vous dis juste un petit peu. Voilà, Modesta, l'héroïne, donc enfant qui est née le 1er janvier 1900 et qui deviendra en 60 années, puisque bon, donc on voit sur 60 ans et 640 pages, faut le dire, la plus belle femme du monde. Donc voilà. Donc et l'auteur, donc Goliarda Sapienza, fit le choix donc d'une vie avide et intransigeante, dont l'art de la joie apparaît un peu comme la transfiguration. Durant les 10 années donc nécessaires à l'écriture de ce roman, de 1967 à 1976, rien d'autre n'a plus compté pour elle. Elle a fait que ça. Et avec son désordre, ses sauts de narration, ses étonnantes cassures de rythme, variations de rythme, ce livre incarne la liberté même, loin des canons traditionnels du roman. Et c'est l'art de la joie ou art de l'impertinence, roman anticlérical ou roman amoral, pensée de l'amour ou pensée de la vie, tout simplement. Peu importe les titres et les sous-titres, mais ce livre est une œuvre dont il est impossible de résumer l'histoire. Donc c'est pour ça que je vous invite, de toute façon, 640 pages, je ne peux pas les résumer. Je vous invite à le lire. Donc c'est de Goliarda Sapienza, ça s'appelle L'art de la joie. Et je pense que ça peut plaire à certains. C'est une vie très tourmentée, très impertinente, comme on l'a dit. Et c'est un très bel hommage à la vie tout court. Avant de vous lire un passage donc d'un troisième livre qui m'a bien plu aussi, je vous propose de faire une petite pause musicale. Take Nous revoici dans votre émission Page à Page sur Radio Occitanie. Donc, j'étais en train de vous parler d'un livre, donc le troisième livre que je vous présente aujourd'hui, que j'avais beaucoup aimé, qui fait partie en fait de c'est le troisième roman donc d'une série qui s'appelle Passe les nuages. Alors, l'auteur, elle s'appelle Suzanne de Arriba. Et donc, elle en a écrit d'autres, hein, mais je veux dire, moi, je vais vous parler essentiellement donc de Passe les nuages, Antonina. En fait, donc, c'est comme une trilogie, donc c'est Antonina, c'est le troisième roman de la série, donc Passe les nuages. Donc, il y a eu Passe les nuages, Cécilia, Passe les nuages, Emma. Et là, donc, celui que j'ai entre les mains s'appelle Passe les nuages, Antonina. Et en fait, donc, c'est trois prénoms de filles, donc, italiennes, des prénoms italiens, donc des filles italiennes. Et donc, c'est trois sœurs. Et donc, chaque roman raconte la vie donc des sœurs, une fois que, enfin, un peu leur vie en Italie avec leurs parents, puis après leur destinée, leur destin, leur choix de vie. Chacune ont une vie très différente, des choix très différents. Et justement, donc, Antonina est celle qui a disparu un peu de la circulation. Les autres sœurs n'ont plus de nouvelles depuis des années. Un jour, elle a disparu. Plus personne n'a de nouvelles, ni les parents, ni Cécilia, ni Emma, ses sœurs. Donc, ce roman est l'histoire donc du destin d'Antonina qui n'est pas connue finalement des autres personnes de sa famille. Donc, je vous lis le petit résumé qu'il y a en quatrième de couverture. Donc, Antonina est le troisième roman de la série Passe les nuages. Antonina, fille aînée de Maria Luisa, est l'enfant perdu, la sœur mystérieusement disparue, dont le chemin après une enfance italienne va aboutir à Lyon. Pour y rencontrer son destin. Là se dessine un nouveau départ pour la région des lacs d'Italie, un jour d'automne, à l'heure de la maturité, celle du soleil couchant. Dans la tradition romanesque, donc, l'auteur nous offre ici un récit assez bouleversant. Donc, comme je vous dis, c'est le récit donc, de la vie de la troisième sœur de cette famille italienne. Et je vous propose de vous en lire un passage en commençant tout simplement par le début, par le chapitre numéro 1, qui s'intitule « Soleil d'automne » au pluriel. Donc ça se passe à Givors, vallée du Rhône, en 1990. Ce soir d'automne en France, un soir ensoleillé, un jeune garçon aux cheveux bouclés remontait l'avenue avec ses copains en direction de la cité des Vernes, à Givors, dans le département du Rhône. Florent était songeur. L'un de ses camarades, un nouveau, lui avait lancé « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton père ?»« Mon père est mort », avait répondu Florent d'une voix plate. Mais la question trop redoutée et la réponse habituelle, cette fois avait déclenché un curieux mécanisme. Son père. Tout ce qui avait trait à lui était résumé dans quelques phrases de sa mère. « Toute jeune, j'ai rencontré un garçon, un Italien comme moi. Il était artiste peintre. Nous avons habité ensemble et nous nous sommes aimés. Et puis, quand je t'attendais, il est mort dans un accident de voiture. » Point final. Aujourd'hui, cela ne satisfaisait plus Florent. Mais quand il demandait des détails, Nina, sa mère, éludait. Il ne lui ressemblait pas et planté devant une glace, l'enfant imaginait un autre visage. Elle n'avait pas même une photo à lui montrer. Quand il l'interrogeait sur sa famille à elle, c'était la même chose, le même mutisme buté. « Mais enfin, tu n'es pas orpheline, tu as bien un père et une mère !» Un jour, elle avait craqué, elle avait crié. « Oui, en Italie, j'ai un père, une mère, des sœurs et des frères, et je ne veux plus jamais les revoir. Je ne veux plus entendre parler d'eux, compris ?»« Mais enfin, ils t'ont fait quelque chose ?»« Oui, ils ne m'ont pas aimée comme je voulais être aimée. » Florent n'avait pas insisté. Mais quand il s'agissait de son père, il n'arrivait pas à se résigner. Il ne supportait plus sa mère, voilà. Cela avait commencé par une accumulation de petites choses, des choses de la vie en apparence insignifiantes, mais qui exaspéraient Florent. Et Fabrice aussi l'exaspérait. Fabrice, l'ami de sa mère. Ce soir d'automne, précisément, Fabrice attendait Nina, plantée au bord de la place, près du kiosque que la municipalité avait voulu conserver quand la vieille ville avait été rasée. Elle était venue vivre dans cette cité rhodanienne, à 20 km de Lyon, où une famille italienne l'avait employée comme jeune fille au pair quand elle s'était enfuie de Perugia, un beau matin, sans crier gare, majeur de quelques heures et se fichant pas mal des lois sur l'immigration. Elle n'avait rien dit à personne, elle n'avait même pas embrassé Cécilia. Tout à coup, Cécilia, comme les autres, était devenue l'ennemi. Cécilia, qui avait un chéri, Domenico. Lyon avait tellement changé que les souvenirs, tenus en laisse, ne venaient pas la harceler quand elle montait à la Part-Dieu ou allait flâner à Saint-Jean. Ils étaient comme des chiens fous qui aboient pour produire un peu de bruit, mais pas pour vous mordre. Et elle se répétait tous les jours, voulait-elle s'en persuader ? Que c'était vraiment une chance d'avoir trouvé ce travail passionnant de documentaliste à la médiathèque et cet appartement confortable dans le quartier, dans le grand ensemble des Vernes, à l'autre bout de la ville, certes, mais avec sa voiture, elle y était en 5 minutes. Sa voiture se trouvait au garage du centre. Il fallait revoir les freins. Aussi, Fabrice avait promis de la reconduire. Si son amie n'avait pu se rendre disponible, Nina aurait emprunté tout simplement la navette qui reliait l'ensemble des quartiers éloignés du centre. Nina regarda Fabrice et son cœur s'emballa un peu. Mais était-ce bien le cœur, siège des sentiments, qui était censé s'émouvoir lorsqu'il était question de Fabrice ? Elle évalua la haute silhouette masculine, élégante et svelte, la blondeur de la chevelure, le charme inégalable de son ami. Leur relation se passait bien, avec des hauts et des bas. Fabrice était divorcé. Il avait son appartement dans le quartier résidentiel des Étoiles. Nina ne souhaitait pas cohabiter, lui non plus. Il leur arrivait de passer ensemble le week-end et certaines soirées, mais c'était pour l'amour, car en ce qui concerne le reste, ils avaient peu de goûts communs. Comme ses sœurs, Nina était attirée par la poésie, la littérature, le théâtre, la peinture, la musique, l'art quoi. Fabrice se passionnait pour le tennis et les automobiles. S'il écoutait de la musique, il s'agissait des tubes dans le vent pour rester dans le coup plus que par plaisir réel. Il était très sensible au paraître et ne s'inquiétait pas de savoir s'il jouait les moutons de Panurge. Et surtout, Fabrice, qui ne s'occupait pas de ses propres enfants, n'éprouvait aucune attirance spéciale pour Florent, le fils de Nina. « Salut Antonina, en forme ? Ne m'appelle pas comme ça, tu sais que je déteste. Bon, je recommence. Salut toi, ça va ? Oui. » Un rapide baiser effleurant sa bouche et déjà Fabrice l'entraînait vers le parking. Il n'était guère expansif en public et dans l'intimité réservait ses câlins en prélude aux jeux sensuels plus hardis. « Monte vite, avant de te reconduire au Verne, je t'emmène faire un tour. Oh, nous n'irons pas loin, c'est juste à l'autre bout de la résidence. » Nina ne posa pas de questions. Avec Fabrice, c'était inutile. Et si son ami avait décidé quelque chose avant de la raccompagner, rien ne pouvait le faire changer d'avis. Cela arrangeait Nina. Une simple balade d'une demi-heure autour de la ville l'aurait comblé d'aise, mais s'il préférait le centre, eh bien pourquoi pas. Elle n'avait aucune envie de se précipiter au Verne. Il faisait doux, un soleil tendre s'ingéniait à parer d'une ultime brillance d'été la cité rhodanienne. « Tu n'es pas bavarde aujourd'hui, remarqua Fabrice. Et tu n'es pas curieuse de savoir où l'on va ? Pas du tout. D'ailleurs, j'aime les surprises. » Fabrice était chimiste. Il travaillait dans le fameux couloir de la chimie entre Lyon et Fézin. Et sa journée se terminait à 16h. Il était issu d'une famille aisée et n'avait pas la moindre idée des problèmes que pose l'absence de soutien familial et la précarité. Aucune idée non plus des difficultés de tous ordres auxquelles Nina avait dû faire face. Ils en parlaient rarement. Cela convenait à Nina. Tout ce qui se rapportait à son enfance en Italie était tabou. Tout ce qui touchait à sa jeunesse, à son premier amour, l'était aussi. Donc je vous laisse deviner un petit peu, enfin pas deviner, mais je vous laisse découvrir tout le livre. Hein, je ne vais pas vous en lire plus. En tout cas, c'est un livre très, très intéressant. Et on peut le lire indépendamment des deux autres qui s'appellent donc Passe les nuages Cécilia, Passe les nuages Emma. Et là, donc celui-ci, c'est Passe les nuages Antonina. Et ils sont tous lisibles, entre guillemets, indépendamment des uns des autres, puisque de toute façon, on retrace un peu l'histoire des parents et des enfants. Et après, chaque sœur ayant son propre destin, et donc l'auteur qui s'appelle Suzanne de Arriba leur ayant consacré à chacune un livre. Donc on peut tout à fait les lire sans être perdu dans les personnages. Donc merci de votre fidélité. La semaine prochaine, je recevrai Maud Langlais, qui est illustratrice pour des livres jeunesse. Je vous souhaite bonne semaine. Adiciats à tous.